Bonjour, bienvenue sur ce plateau de TV5 Monde pour un nouveau numéro d'International avec RFI, le journal Le Monde. Dans une dizaine de jours, le 14 juin exactement, coup d'envoi de la Coupe du Monde de football à Moscou avec en match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite. Un mois de compétition de match pour un titre de champion du monde. Qui succédera à l'Allemagne, championne en titre? 32 équipes, 32 nations qualifiées pour ce rendez-vous qui va bien au-delà du seul événement sportif. Alors pour en parler avec nous, Fatma Samoura, elle est numéro 2 depuis 2 ans de la FIFA, la Fédération Internationale de Foot. A-t-elle trouvé sa place dans cette institution où les hommes font la loi depuis la création de la FIFA en 1904? La FIFA a-t-elle fini, en a-t-elle fini avec les scandales? Et le foot féminin peut-il gagner en visibilité? Mais pour commencer, une séquence humour, un extrait d'une émission de télévision. Une parodie de comédie musicale sur le foot où il est question de joueurs aux poches bien remplies qui font avant tout la fête. Ou comment se moquer des travers des professionnels du ballon rond. Musique.
Quand on arrive en bois, on est les rois de la nuit, avec nos cheveux plein gel et nos câbles crédits. Quand on arrive en bois,
Fatma Samoura.
Bonjour Madame Jolie.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cet extrait où le foot est caricaturé, hein, avec cet argent qui coule à flot, bien loin des valeurs que le sport devrait porter, est-ce que ça vous dérange et est-ce qu'il y a en fait trop d'argent dans le monde du foot?
Mais disons que cette séquence reste quand même une parodie, une belle caricature. Le football, ce ne sont pas seulement des beaux garçons et des jolies femmes avec beaucoup d'argent, mais c'est également beaucoup de rigueur et de discipline dans les entraînements. C'est beaucoup de sacrifices pour les parents et surtout beaucoup de joie et une magie incroyable pour les fans du football.
Mais c'est une parodie, une caricature, mais ce n'est pas qu'une image, c'est la réalité, l'argent dans le monde du foot.
Oui, on reconnaît qu'il y a beaucoup d'argent et un des mandats justement de la nouvelle équipe de la FIFA, c'est d'essayer, pas de réglementer, mais de réguler un petit peu ce flux d'argent qui sort du circuit habituel du sport. Et rassembler tous les acteurs du football, notamment les clubs, les syndicats, les joueurs, mais aussi les associations, mais surtout les politiques, parce qu'en Europe, en ce moment, on n'a pas la possibilité de trop nous immiscer dans l'argent qui est généré par le football, mais on pense avec maintenant ces scandales que nous vivons tous les jours sur l'argent qui sort du circuit habituel, on a la possibilité peut-être de recadrer, disons, cette institution de tout ce qui tourne autour du transfert des joueurs et de pouvoir utiliser peut-être les retombées aussi pour développer le football.
Alors on reviendra sur cette question, mais avant de poursuivre cet entretien, Fatma Samoura, je vous propose ce focus sur la FIFA, dont je rappelle vous êtes le numéro 2 depuis 2 ans. Focus signé par Bastien Bory et Julien Bouillet.
La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini. C'est fini maintenant.
Discrédité, la FIFA a besoin d'être consolée. Il lui faut un remplaçant. C'est lui, Gianni Infantino, élu président de la Fédération Internationale de Football en février 2016. Et c'est vous, Fatma Samoura, qu'il nomme secrétaire générale. Première femme à ce poste depuis la création de la FIFA il y a 114 ans. L'affaire Blatter-Platini de paiement déloyal vient alors d'éclater à 2 ans de la Coupe du Monde 2018 en Russie.
J'espère que les enquêtes en cours ne vont pas perturber l'organisation de ces Coupes du Monde.
Ce serait un comble. La promotion du football dans le monde, c'est justement l'objectif numéro 1 de la FIFA. Une petite association qui voulait mettre cette discipline au service de la paix, devenue multinationale à but non lucratif, où la corruption a parfois joué aux avant-postes. Pot de vin, contrat de droit télé au rabais, attribution suspecte de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, en Russie, au Qatar. Au moment où vous entrez sur le terrain, vous, l'ancienne fonctionnaire de l'ONU sans expérience dans le football, ces enquêtes ternissent l'image d'un sport populaire.
Le football, ce qui fait son charme, c'est que c'est un sport qui coûte pas cher.
Mais qui rapporte gros. 2 milliards d'euros, c'est le bénéfice de la FIFA en sponsoring et droit télé après la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Malgré les scandales, voilà un sport qui gagne toujours plus de spectateurs et d'argent. le foot masculin du moins. Compétition féminine, attractivité du foot africain, formation des jeunes, des dossiers en chantier et autant de réformes avec lesquelles vous tentez de jongler.
Fatma Samoura, Sophie Malibaud de RFI, Christophe Ayad du journal Le Monde nous ont rejoints. Vous allez partir très rapidement là bientôt pour la Russie.
Dans 3 jours, oui.
Dans 3 jours. Nous allons revenir sur cette actualité, mais concernant votre parcours déjà, pourquoi avoir accepté la FIFA, vous qui veniez des Nations Unies?
Parce que j'avais rencontré par le plus grand des hasards, Monsieur Infantino, lorsque j'ai terminé ma mission à Madagascar.
Qui est actuellement le président de la FIFA.
J'avais lu son manifeste et il avait émis des idées qui recoupaient les miennes. Remettre le football au centre des préoccupations de la FIFA, faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'ordre, de discipline et de la transparence, une meilleure gestion financière, des choses que je connais et que j'ai pratiquées tout au long de mon parcours de 21 ans avec les
Nations Unies.
Oui.
Fatma Samoura, est-ce qu'il n'y a pas ce paradoxe qui est que ce sport très populaire génère un nombre de talents africains énormes et que ce pays finalement reste déshérité du point de vue des installations, des moyens qui sont mis dans le foot?
Et c'est vrai, et c'est l'une des préoccupations aujourd'hui du nouveau management de la FIFA. C'est faire en sorte que les revenus qui sont tirés de la Coupe du Monde, qui restent quand même notre joyau sportif qui génère aujourd'hui près de 6 milliards de dollars, d'être réinvesti dans le football. À travers le nouveau programme FAUD, ce sont 5 millions de dollars qui sont investis au niveau de chacune des associations membres de la FIFA et 10 millions tous les ans qui vont aller aussi aux confédérations. L'idée, c'est d'abord de soutenir le football au niveau des petites catégories, mais également de tisser des liens avec les gouvernements, surtout les ministères de l'éducation et du sport, pour que le football devienne une partie intégrante du curriculum au niveau des écoles primaires. Aujourd'hui, le président Infantino a déroulé son programme. Son programme, c'est plus d'infrastructures. Et aujourd'hui, nous avons 1 milliard investi depuis 2016 dans le cadre du programme FAUD. C'est beaucoup plus de centres d'entraînement, c'est beaucoup plus de terrains de football. C'est le développement du football féminin, c'est le développement de certaines ligues, notamment en Amérique latine, mais c'est également le développement du football scolaire. Avec ça, nous espérons rattraper ce retard par rapport aux autres continents.
Mais Fatma Samoura, est-ce que vous avez l'impression, on a l'impression que le football, qui est censé être un outil de développement, c'est un outil d'accroissement des inégalités, et qui est censé être un outil de paix, de concorde entre les nations, on a l'impression que c'est plus un facteur d'intolérance autour des stades.
Moi, je dirais plutôt que le football, c'est un langage universel. Mmh. Mon premier contact avec la FIFA, c'était à l'issue du génocide rwandais. Après ce qui s'est passé en 1994, la seule fois où les deux communautés Tutsi et Hutu ont accepté de se retrouver, notamment les jeunes, c'était autour de la construction d'un stade avec les financements de la FIFA. J'ai passé beaucoup de temps dans les pays en guerre et je dirais également, pour exemple, le Libéria. Le seul moment où les combattants acceptaient de faire la trêve, c'était pendant qu'il pleuvait, pendant qu'il y avait un match de football. Donc moi, je pense que je suis une des personnes les mieux placées pour dire effectivement que le football peut construire des ponts entre les peuples. Il y a beaucoup d'argent dans le football et cet argent, aujourd'hui, nous voulons qu'il soit réinvesti justement pour pouvoir consolider ses acquis du passé et pas seulement rester dans tout ce qui est star et beaucoup d'argent. Je crois que c'est une image un petit peu travestie du football que de penser que tout tourne autour de l'argent.
Ouais, mais je ne sais pas si c'est caricatural, parce que quand on voit ce qui s'est passé dernièrement en Ukraine, l'impossibilité pour les supporters ordinaires finalement d'aller assister au match parce que les enchères étaient montées, avaient atteint des prix effroyables. Et que fait la FIFA pour contrer ce type de phénomène et permettre que les manifestations restent accessibles aux fans ordinaires?
Déjà, je citerai l'exemple de notre nouvelle politique de prix de billetterie pour la prochaine Coupe du Monde des femmes. On s'est rendu compte en France, par exemple, que le football féminin est une histoire de famille. Quand la fille joue au football, le papa vient Et quand le papa vient, la maman s'est dit, mais pourquoi je vais rester derrière la maison et derrière les fourneaux et rester juste pour regarder la télé. Et faire en sorte que ce soit des billets qui sont ouverts à toute la famille et plutôt que d'acheter des billets individuels comme aujourd'hui on le fait avec la Coupe du Monde. Donc on est en train de trouver des moyens de rendre ce sport populaire beaucoup plus accessible et je crois que le bon exemple ce sera à partir du mois d'août avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se jouera en Bretagne et qu'on va poursuivre également en France pour la Coupe du Monde 2019 pour les femmes.
Alors, Fatma Samra, vous venez de parler du foot comme vecteur de paix, mais l'image du foot, c'est aussi la violence. Hein. Et on va parler de cette question à propos de cette Coupe du Monde en Russie. Les hooligans russes n'échappent pas à ce phénomène. Ils sont très violents. Hein. On a vu des bagarres à grande échelle en Russie. Le président de la FIFA, lui, a dit qu'il était très, très confiant pour cette Coupe du Monde, qu'il n'avait aucune inquiétude. Mais quelle garantie vous avez, puisque on a même les hooligans anglais là qui ont dit qu'ils y allaient pour faire en quelque sorte le coup de poing en Russie.
Mais moi je dirais tout simplement que nous prenons très au sérieux tout ce qui est violence et risque sécuritaire dans les stades. Mais nous n'avons aucune raison de douter de la parole reçue des autorités russes. Et je sais qu'ils ont mis en place plusieurs systèmes, notamment le Fan ID, pour pouvoir justement essayer de contrôler ces personnes qui sont fichées comme étant des hooligans ou qui représentent un danger pour le football. Aujourd'hui, nous n'avons aucune inquiétude et je voudrais justement clarifier ce problème une bonne fois pour toutes. Ça va pas être un ring de boxe les 12 stades dans lesquels nous allons jouer la Coupe du Monde. Moi, j'ai été à la Coupe des Confédérations l'année dernière, à pareille époque, et je vous assure qu'au niveau même des violences verbales et des actes de discrimination auxquels on a l'habitude de faire face quand certaines équipes, notamment de l'Amérique latine, jouent, on n'a pas eu ce genre d'incident. Nous avons des observateurs dont le rôle également est de pouvoir arrêter immédiatement un groupe de personnes qui risquent de créer des troubles et on a mis en place
une Coupe du Monde sous haute surveillance.
Mais dès qu'il y a des millions de personnes qui se réunissent, on parle de 3 millions de visiteurs pendant la Coupe du Monde, il y a toutes les raisons de penser qu'il va y avoir des incidents sécuritaires et on prend des mesures pour que ça ne se passe pas.
Vous êtes
comme
confiant.
Ça s'est passé en France à l'Euro, oui.
Vous êtes confiante du système de surveillance, éventuellement de la répression, mais est-ce que vous êtes satisfaite finalement du rôle éducatif, enfin de ce qui est fait bien en amont? Parce que ce qui est tout de même dommage et qui rejaillit vraiment sur la réputation des instances du football, ce sont ces incidents qui se perpétuent et qui sont loin de refluer. Les cris de singe, les chants racistes.
Moi, je voudrais apporter un bémol. Oui, il y a des chants racistes. Et pour moi, d'après mon expérience avec les Nations Unies, les sanctions n'ont jamais réglé le problème. Aujourd'hui du hooliganisme et de tout ce qui est chants discriminatoires dans les stades, c'est un problème d'abord d'éducation. Moi, j'ai eu à aller au Pérou, j'ai eu à aller en Chili pendant la première année de nomination. Et effectivement, les gens me disaient, oui, tous ces chants homophobiques, ce sont quelque chose qui est dans le culture. Ce qui est valable dans votre culture n'est pas valable universellement. Donc nous sommes dans un contexte où nous avons des gens qui viennent de différents horizons. Il faut les respecter. Et je disais encore, l'année dernière, on a eu ces mêmes équipes qui ont reçu de fortes amendes parce qu'ils chantaient des chants homophobiques qui se sont très bien comportés. Cette année, la Russie a été sanctionnée au mois de mars. Et je crois
à Saint-Pétersbourg, pour un match amical Russie-France et des cris de singe avaient retenti contre des joueurs français.
Qu'ils ont compris.
Mais justement,
il arrive qu'on fasse des matchs à huis clos, et c'est là où ça fait le plus mal parce que l'équipe ou le club ne récolte pas d'argent.
Pendant la Coupe du Monde, est-ce que si vous avez des incidents, des chants racistes, comment vous luttez contre ça en temps réel? Est-ce que on identifie les gens, on essaie de les sortir, ou est-ce que on sanctionne la Fédération russe pendant le mondial en disant vos supporters ne se conduisent de manière inacceptable, tel match se déroulera sans supporters russes?
Il y a plusieurs possibilités. Les sanctions sont automatiques. Nous avons des observateurs pour chacun des matchs. Si on a une confirmation que les gens se sont mal comportés, ça va au comité à la commission de discipline qui sanctionne.
C'est quel effectif, les observateurs, pour avoir une idée? C'est beaucoup,
non? Pour un match, c'est jusqu'à 800 personnes.
Oui.
C'est énorme. Et nous avons également la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle la procédure à trois étapes, où nous donnons plein pouvoir à l'entraîneur, à l'arbitre, qui peut passer un message dans un premier temps, qui peut rappeler les joueurs au vestiaire dans un deuxième temps et qui peut arrêter une compétition. Et ça, c'est vraiment des mesures qui existaient au niveau de l'UEFA, que maintenant la FIFA a mis en place depuis la Coupe des Confédérations l'année dernière. Et quand vous savez que vous avez des millions de fans qui ont payé leur billet d'avion, leur hôtel et qui viennent, vous n'avez pas intérêt à ce que le match s'arrête ou que votre équipe rentre à la maison. Et je pense que les gens vont prendre très au sérieux cette étape, ces trois étapes qui sont une nouvelle procédure.
On vient de parler de la violence liée à des supporters, mais il y a une autre violence qui est, que la Russie a bien connue, notamment l'année dernière, c'est une violence terroriste avec des attentats, notamment à Saint-Pétersbourg aussi, qui ont fait plusieurs victimes, plus de 10 morts. Comment vous gérez, vous, la FIFA, ce type de risque, dans la mesure où est-ce que, par exemple, compte tenu de la prévalence maintenant de ce risque terroriste, est-ce qu'il peut en faire un critère pour sélectionner notamment les candidatures des pays hôtes?
Bien entendu, dans les 9 critères de sélection, et vous le verrez à travers le bid du Maroc et du bid conjoint des États-Unis, le critère sécuritaire est en bonne position, tout comme le critère sur tout ce qui est gouvernance, respect des droits humains, également respect de l'environnement et disponibilité des infrastructures. Mais le premier responsable de la sécurité des personnes qui viennent, c'est d'abord
c'est
le gouvernement. Exactement. C'est d'abord
Christophe.
Le gouvernement russe.
Madame Samoura, cette Coupe du Monde, elle se déroule en Russie. C'est un pays qui n'est pas une démocratie, qui n'est peut-être pas une dictature non plus, mais enfin qui n'est pas du tout une démocratie. Et c'est un pays qui est en conflit avec d'autres ensembles de pays, notamment l'Ukraine sur sa frontière, etc., qui a envahi une partie du territoire ukrainien et qui l'a même annexé dans le cas de la Crimée. Comment faire en sorte que cette Coupe du Monde ne se transforme pas en outil de propagande pour un régime politique qui a des objectifs, comme tous les régimes, mais dont les pratiques sont internationalement réprouvées, voire sanctionnées. Imaginons que Poutine veuille faire, à travers des discours ou à travers du folklore, la cérémonie d'ouverture, fasse glisser le message que la Crimée, c'est la Russie, alors que c'est pas reconnu. Comment on fait ?
Moi, je dirais d'abord qu'il faudrait séparer la politique du football.
Ça paraît difficile quand même.
Ça paraît difficile, mais c'est faisable. Si nous devions aller uniquement dans les pays qui respectent tous les droits de l'homme, il n'y aurait pas de Coupe du Monde. C'est aussi simple que cela. Et la Russie n'est pas une exception. Cela ne veut pas dire qu'on va encourager des régimes qui ne répondent pas aux critères et aux standards internationaux de protection des droits de l'homme auxquels la FIFA adhère. Dans l'article 3 de ses statuts. Le football, pour nous, c'est d'abord une joie, c'est une fête populaire. C'est une possibilité d'amener des peuples qui ne se connaissent pas, de se rencontrer, et c'est une possibilité également de partager des cultures. C'est tout. C'est...
Oui, mais Vladimir Poutine instrumentalise un peu quand même cette Coupe du Monde. On l'a vu assister au tirage pour les matchs. Donc,
mais il n'a pas profité pour passer un message politique.
Mais la seule présence.
Mais on est chez lui. Et je pense que Mandela était quand même présent pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud.
Vous n'avez pas la même image.
Même
hein,
si
ce n'est
pas la même image.
Et Poutine.
Oui, mais les chefs d'État, ce sont les seuls d'abord qui ont le droit de toucher la Coupe du Monde. Et ce sont quand même des gens qui nous accueillent chez eux. Donc si nous décidons d'aller là-bas. Et je rappelle que le choix du Qatar et de la Russie n'est pas un choix qui a été fait par cette nouvelle administration.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est quelque chose qu'on respecte, voilà. Qui a été fait, et les enquêtes en cours,
une situation qui a été
n'ont pas pu prouver qu'il y avait une malversation dans leur
Mais il y a des enquêtes en cours.
Il y a des enquêtes en cours, mais le rapport Garcia n'inquiète pas.
Par rapport à l'attribution
personne.
De cette Coupe du Monde et à Moscou et au Qatar.
Autre question sur la Russie, c'est le pays aussi où le dopage a été érigé en système quasi institutionnalisé. Quelle garantie avez-vous qu'on ait en 2018 une coupe propre, entre guillemets ?
Je voulais d'abord dire que pour les joueurs de football, notamment les 23 qui sont aujourd'hui sur la liste des sélectionnés, aucun d'eux ne fait l'objet d'une investigation. Au niveau du football, encore une fois, le pourcentage de doping est 0,0001%. Et je crois que les décisions qui ont été prises par le comité olympique pour sanctionner les athlètes qui étaient dopés, mais également les autorités qui ont conduit à ce dopage ou qui ont fermé les yeux, a été exemplaire. Aujourd'hui, on parle d'un football propre et la FIFA a une politique de tolérance zéro en matière de doping.
Il y aura des tests inopinés ?
Il y aura tout le temps des tests inopinés. Et si nous avons une assurance pendant le jeu qu'un joueur est dopé, nous pouvons l'appeler à tout moment pour
faire contrôler. Et est-ce qu'on garde les échantillons ? Parce qu'on le sait, les
échantillons sont scellés, Madame Maribo, et sont envoyés puisque le laboratoire russe n'est plus reconnu par WADA, qui est donc l'agence antidopage, sont ramenés le même soir au niveau de Lausanne, un laboratoire habilité par WADA, et les résultats sont communiqués immédiatement.
Madame,
l'année dernière, nous avons pris 871 échantillons pendant la Coupe des Confédérations avec 8 équipes. Il n'y a eu pas un seul cas de dopage positif.
Alors, dernière question concernant cette Coupe du Monde en Russie. Le gouvernement britannique a décidé de boycotter cette manifestation suite à l'affaire Skripal. Est-ce que vous regrettez cette décision ?
On aurait bien voulu que la politique soit séparée du football et que les Britanniques puissent venir, y compris les politiques. Mais encore une fois, nous ne nous immisçons pas dans les décisions politiques des États. La Russie est un pays accueillant, est un pays avec beaucoup de charme. J'ai eu à y aller une vingtaine de fois et personnellement, je n'ai pas eu un seul moment à souffrir d'une quelconque discrimination ou d'un traitement non acceptable ou non sportif.
Alors,
et j'encourage les gens qui ne connaissent pas la Russie, y compris vous autres, à venir. Et je pense que l'idée que c'est un pays totalitaire, que tout le monde est dopé, qu'il y a des problèmes de sécuritaire, vous allez en ressortir avec une idée totalement différente. En tout cas, c'est mon opinion personnelle.
Alors, à Moscou, le 13 juin, avant l'ouverture de la Coupe du Monde, il va y avoir le vote du congrès de la FIFA pour l'attribution de la Coupe du Monde 2026. Un vote qui va donc départager deux pays aujourd'hui. D'un côté, le Maroc. De l'autre côté, la candidature États-Unis, Canada,
Mexique.
Est-ce que on peut avoir des garanties sur la transparence et sur ce vote, puisque jusqu'à présent il y a eu plein de soupçons sur les attributions.
Et pour la première fois, d'abord, ce vote va être une décision du Conseil le 10, et si le Conseil avalise les recommandations du Task Force, donc du groupe de travail technique, ça va aller au Congrès, et ce seront les 207 associations membres qui auront à décider qui est le pays le mieux positionné.
On a l'impression que les jeux sont faits. La candidature a été.
Mais c'est une évaluation technique. Vous avez un pays, trois pays qui organisent la Coupe du Monde, qui ont l'habitude d'organiser de grands championnats de football américain avec des stades. Et vous avez un pays qui est dans mon continent, qui a envie aussi d'accueillir la Coupe du Monde et qui va devoir, sur les 14 stades qu'ils ont présenté, à en construire au moins 8. Et oui, c'est...
Et donc, on va plutôt vers la candidature...
Non, pas du tout. Moi, je ne vote pas.
Coupe du Monde
2026, le président aux États-Unis ne vote pas et le Conseil ne vote pas. Le Conseil décide si les deux candidatures passent et c'est encore une fois, en toute souveraineté, les 207 associations membres qui vont décider.
Madame,
et ça fait partie des réformes de la FIFA.
Le fait que le président des États-Unis ait politisé ce vote en disant soit vous votez pour nous, soit vous êtes un ennemi.
Vous avez des sanctions économiques.
Et donc, vous en subirez les conséquences. C'est des menaces claires. Est-ce que c'est pas fausser le processus ?
Je sais pas. Pour le moment, le Task Force a déjà fini son travail technique. Maintenant, c'est...
Non, mais est-ce que c'est gênant que...
Ça, il faut le demander aux États qui vont voter.
Attendez, ça ne vous fait pas regretter le fait que le vote soit devenu public ? Parce que du coup, effectivement, ce type de menace peut être mené à exécution.
Mais c'était une décision du Congrès. Le Congrès, après tous les scandales financiers et puis toutes ces subjectivités dans l'octroi de ces deux dernières Coupes du Monde, qui a décidé que pour plus de transparence, tous les pays qui vont voter seront également affiché. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose.
Alors,
les gens prennent leurs décisions en fonction de leur amour pour le football et non pas à partir d'une influence politique quelconque.
Ça on pourra pas.
Et encore une fois, le sport doit être séparé de la politique.
L'influence politique, on le mesurera. Je veux dire, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui détermine un vote. Ce n'est pas que forcément les infrastructures ou la qualité d'un dossier.
Tout à fait.
Mais ça peut être de l'influence politique. Mais sur cette candidature commune, Mexique, États-Unis, Canada, c'est la première fois que trois pays font une candidature commune. Il y a déjà eu deux. Corée du Sud, Japon, là ça sera trois. Est-ce que c'est pas trop, d'autant que cet ensemble, aujourd'hui, il est désuni, il y a des problèmes de frontières, Trump parle de murs, il y a des problèmes commerciaux, d'échanges, puisque l'ALENA est en plein bouleversement, cette espèce de traité de libre-échange commercial entre les trois pays est en pleine renégociation, et il y a des sanctions, enfin une guerre tarifaire que viennent de lancer les États-Unis sur l'acier et l'aluminium, et qui vise notamment le Canada. Est-ce que c'est un ensemble cohérent, États-Unis, Mexique, Canada?
Nous avons reçu des garanties, notamment de la part des trois bidders, qu'il n'y aura pas de discrimination pour jouer la Coupe du Monde en 2026, si toutefois la candidature conjointe l'emporte.
Donc les travailleurs immigrés mexicains ne sont pas bienvenus, mais les supporters
mexicains sont bienvenus. Ce sont des garanties que nous avons reçues, et ça fait partie des critères, des 9 critères pour pouvoir abriter la Coupe du Monde. Et nous sommes tenus de faire confiance aux gens qui ont quand même travaillé d'arrache-pied pour pouvoir amener ce bid jusqu'au niveau de l'évaluation finale.
Alors, changeons d'actualité, mais c'en est une. Il y a quelques jours, Michel Platini, l'ancien président de l'UEFA, l'Union des associations européennes de football, a été blanchi par la justice suisse dans l'affaire du versement de ses 2 millions d'euros en 2011. Il a été suspendu par le comité d'éthique de la FIFA, alors qu'il était candidat à sa présidence. Il est toujours suspendu jusqu'en octobre 2019. Alors, est-ce que cette suspension pourrait être levée? Et on a quelques doutes, puisque la FIFA ne semble pas vraiment favorable. Elle a dit que la justice était une chose, mais qu'il y avait le comité d'éthique de l'autre.
Et tout à fait d'accord avec cette position qui est
donc
également celle de l'administration. Je dirais juste que M. Platini a été, suspendu par le comité éthique, qui est un organe indépendant de la FIFA. Et dans ma position de chef d'administration, je me vois très mal en train de revisiter une décision d'un organe judiciaire indépendant. Il a fait appel au niveau du comité et au niveau du tribunal arbitral qui a confirmé la sanction et qui a confirmé qu'il y avait une violation du code de l'éthique de la FIFA qu'ils ont tous accepté en tant que candidat ou en tant que président d'une association ou en tant que membre officiel.
Il a été blanchi par la justice.
Aujourd'hui, nous, on n'a pas dans nos procédures de possibilité de gracier ou d'amnestier qui que ce soit.
Ah, donc c'est un problème de procédure.
C'est le comité éthique qui a décidé en toute indépendance.
Alors,
et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, les faits qui lui sont reprochés sont toujours d'actualité.
Monsieur Platini a donc demandé, s'en est référé à la Cour européenne des droits de l'homme, justement, pour se plaindre de ce comité d'éthique.
Mais attendons,
de son indépendance.
La décision de la Cour des droits de l'homme.
Un amendement a été passé qui permet, en fait, aux dirigeants de la FIFA de nommer ou de démettre le comité d'éthique. Quel est son degré d'indépendance?
Plus maintenant.
Quel est son degré, réel?
Les membres du comité éthique sont désignés par le Congrès. Ce n'est plus le patron de la FIFA. Et c'est là également un départ qu'on a fait par rapport à une situation antérieure. Ce n'est pas M. Infantino ni Mme Samora qui nomment les membres du comité d'éthique. Leurs noms sont apportés par les confédérations, sont validés dans un premier temps par le Conseil, et c'est le Congrès qui décide de nommer les présidents des comités d'éthique, aussi bien que le président du comité conformité. Donc, ça n'a rien à voir.
Donc, Michel Platini sera encore empêché éventuellement de candidater à la prochaine présidence?
Pour l'instant, je n'en sais rien.
En 2019,
aujourd'hui, les faits qui lui sont reprochés sont toujours d'actualité.
Vous n'avez pas le pouvoir aussi de retarder un peu le Congrès pour qu'il ait la possibilité, une fois la suspension?
Malheureusement, le Congrès doit se passer 4 ans après.
Les 4 mois, donc.
Il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation possible de votre part.
Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu.
Alors, autre sujet, Madame Samoura, le Qatar. C'est donc C'est le pays qui va organiser la Coupe du Monde en 2022. Christophe, au sujet du Qatar.
Oui, c'est un pays qui est sous blocus aujourd'hui. Et rien ne dit que dans 4 ans, il ne sera pas sous blocus de ses voisins. Ce qui pose quand même un énorme problème, c'est d'avoir un pays complètement isolé de sa région qui va accueillir une compétition internationale. Deuxième question, c'est une région du monde où il y a des menaces de conflits clairs. L'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats, il y a même eu des menaces quasiment d'invasion du Qatar si jamais il se dotait de certains systèmes d'armement, comme le Monde l'a révélé vendredi. Est-ce que c'est envisageable d'organiser une Coupe du Monde dans cette atmosphère de blocus, de menaces d'invasion ou est-ce que c'est pas dangereux?
Ben, vous l'avez dit, Christophe, nous avons encore 4 ans jusqu'en 2022 pour abriter la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous sommes en dialogue constant avec les autorités qataries et notamment le comité local d'organisation. Je pense que d'ici 2022, on aura de bonnes nouvelles. Et je l'espère qu'on aura de bonnes nouvelles. Est-ce que ce sera optimal pour pouvoir organiser la Coupe du Monde? Je l'espère. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas la boule de cristal. Je ne peux pas me projeter dans 4 ans. Et je sais que des pays qui étaient au bord de la rupture, notamment en Corée du Nord, aujourd'hui, ils sont en train de se parler. Et je me dis qu'avec le football, si nous pouvons servir d'intermédiaire et de médiateur entre les peuples pour qu'il y ait un dialogue. Et je pense que le président le fait très bien en ce moment.
Et vous voulez dire, le président Infantino, il mène une médiation entre Qatar, Arabie Saoudite, Émirats.
Pour le bien du football. Pour le bien du football. Et je pense que les dirigeants de ce monde devraient également se joindre à cette volonté de pouvoir vraiment installer un peu plus de sérénité dans cette partie du monde pour que les gens qui ont envie de faire du sport quelque chose de festif puissent
alors,
également
si,
jouer
si, il n'y a pas de bonne nouvelle dans 2 ans, c'est-à-dire si on est, on reste dans
mais là,
une
on verra dans 2 ans.
Ben oui, mais une Coupe du Monde, ça se prépare pas en 2 ans. Il faut du temps, des infrastructures. Est-ce qu'il y a un plan B?
Pour l'instant, nous arrivons à nous déplacer sur place.
Non, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un plan B en cas de catastrophe?
Ben, il y a toujours des possibilités. C'est à l'impossible de tenir. Si ça se passe pas, ben, on a des garanties, on a des parachutes. Mais
vous voulez dire qu'il y a déjà des pays que vous avez
non,
en tête?
Non, pas de pays du tout.
Parce
pas
que
pays.
Les États-Unis étaient candidats à cette Coupe 2022.
Pas du tout. Pour l'instant, nous nous focalisons d'abord sur la Russie. Et à partir du 16 juillet, nous allons nous concentrer à 100% sur le Qatar.
Ça n'a aucune incidence sur la façon...
Je préfère me mettre la position de faire en sorte que ça se fasse au Qatar plutôt que d'envisager des plans B. Même pour un pays qui doit organiser en 4 ans, c'est quand même beaucoup de défis. Donc pour l'instant, nous avons un pays qui continue de faire tout pour que les infrastructures soient prêtes, qui a déjà inauguré 2 stades et un stade principal pour l'ouverture et la finale, qui est en pleine construction des routes, des autoroutes, de ces hôtels. Je pense qu'il faudrait plutôt l'encourager.
Oui, alors, vous dites que c'est un pays qui fait tout pour organiser la Coupe du Monde de 2022 dans ses infrastructures. Il y a quand même un dossier qui a été soulevé ces dernières années par des ONG, c'est la condition des travailleurs étrangers au Qatar, des passeports confisqués, des salaires non versés, un certain nombre de travailleurs qui sont morts.
Mais c'est le système de Khalafa que je connais très bien.
Voilà, parce qu'il fallait un tuteur.
Ce système a été aboli depuis le 1er janvier 2017.
Oui, alors c'est très tard, parce que c'est depuis, depuis des années que les gens travaillaient au Qatar dans des conditions qu'on peut qualifier.
Oui, mais aujourd'hui, les 15 000 ouvriers qui travaillent sur les infrastructures sportives pour habiliter la Coupe du Monde obéissent aux mêmes standards internationaux qu'en Europe. Pas plus d'incidents sécuritaires, pas plus de mauvais traitements. Mon souhait aujourd'hui, c'est que toutes les autres entités qui travaillent, pas uniquement sur les stades, puissent bénéficier des mêmes conditions de traitement pour leurs employés. On a 1 200 000 travailleurs qui travaillent au Qatar.
Ce sont des Népalais, des Indiens, principalement.
Pour les infrastructures. L'idéal serait que ces 1 200 000 puissent bénéficier aujourd'hui des mêmes conditions de traitement que les autres. Et nous avons de belles raisons de croire qu'aujourd'hui, le cas du Qatar est en train de faire ému dans tous les pays du Golfe, puisque nous avons des pays voisins qui viennent aujourd'hui s'inspirer du code révisé de travail qui permet beaucoup plus de liberté et donc qui obéit aux mêmes standards Nous avons également des visites.
Mais il aurait fallu attendre que des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International.
Mais c'est ça aussi la bonne de la Coupe du Monde. Oui. La Coupe du Monde doit servir également.
Mais on aurait pu penser que la FIFA aurait eu un rôle moteur avant que ce soit dénoncé par les ONG.
Il n'avait pas commencé les travaux. On ne peut pas intervenir dans un pays qui a reçu l'attribution d'une Coupe du Monde en 2010.
Mais alors, est-ce que les critères...
Et vouloir changer des comportements séculaires en 5 ans. Mais moi, ma position a été toujours la même. On ne sanctionne pas les États. On est là pour faire de la politique pour le développement du football. Et si on peut utiliser le football pour changer des comportements dans des sociétés qui sont très conservatrices, le football doit être utilisé pour ça.
Alors, certains observateurs, y compris l'ancien président de la FIFA, ont fait remarquer, ont fait une sorte de lien entre le moment où les États-Unis, donc, le Qatar s'est vu attribuer la Coupe 2022 et au lendemain de cet événement, donc, le déchaînement judiciaire américain et donc toutes ces affaires qui ont commencé à partir de 2015, les affaires qui sont toutes parties des États-Unis et de Loretta Lynch, ministre de la Justice donc de Obama à l'époque. Que pensez-vous de ce lien qui est fait par Sepp Blatter lui-même ?
Moi, je dirais d'abord que nous avons contribué et appuyé ces investigations. Ce sont des choses qui ne devraient pas se faire, mais qui ont quand même servi à ce que moi je vienne à la FIFA. S'il n'y avait pas ce scandale financier, ni M. Infantino, ni moi-même ne serions là.
Pourquoi donc, sont-ils partis des États-Unis ?
Moi, je ne sais pas si c'est vraiment les États-Unis qui l'ont piloté ou s'il y avait déjà des soubassements quelque part avec la justice suisse et qu'ils attendaient le moment opportun pour pouvoir se saisir. Mais il y a eu plusieurs rapports qui ont été produits et je pense que plutôt que c'est sur la base du rapport Garcia que ce coup de filet a eu lieu plutôt que de penser que ça a été piloté parce que quelqu'un est fâché pour ne pas avoir eu la Coupe du Monde. De toute façon, c'était une chose à faire. C'était une chose, une bonne chose pour le sport, que maintenant les gens sachent qu'on ne peut pas s'enrichir impunément avec l'argent du football et que l'argent du football doit retourner au football à travers des programmes de développement.
Mais alors pour
ce que nous essayons de faire.
Ceux qui sont incriminés sont des dirigeants de la FIFA.
La plupart sont en prison, oui. Voilà.
Mais quid de ceux qui payent finalement pour obtenir les contrats, quid des sponsors, etc. Il y a peu de, il y a pas d'emprisonnement, il y a pas de peine.
La justice est un peu lente, mais je pense que il y a déjà certaines personnes qui font partie des gens, comme vous dites, des corrupteurs, qui ont été entendus par le comité d'éthique, qui ont été suspendus. Maintenant, il y a tout l'aspect pénal qui va suivre, et moi je n'ai aucun doute que d'ici encore 5 ou 6 ans, on va encore arrêter des gens ou on va encore entendre des personnes.
Alors, progressons dans cet entretien. Fatma Samoura, vous vous êtes engagée, vous, pour la promotion du football féminin, et il y aura d'ailleurs l'an prochain en France la Coupe du Monde féminin à Lyon, du 7 juin au 7 juillet, je crois,
oui.
Ce sera la 8e Coupe du Monde. Alors, c'est un foot qui progresse, mais qui manque encore et beaucoup de visibilité, de popularité, qui manque de sponsors. Je voudrais juste vous choisir un exemple et j'aimerais votre réaction. Une équipe de foot féminine, qui remporte une Coupe du Monde va gagner une prime 2000 fois moins élevée que leurs homologues masculins. Alors, est-ce que c'est pas temps pour la FIFA de faire quelque chose ? Alors, je ne sais pas si c'est instaurer l'égalité des primes, mais du moins déjà un peu réduire l'écart entre l'attribution de ces primes.
Je voulais juste clarifier une chose. Aujourd'hui, la seule compétition qui permet de financer toutes les autres compétitions,
oui, c'est la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde des hommes.
Des hommes, oui.
Et tout ce qui vient comme compétition des moins de 17 ans, comme la Coupe du Monde de beach soccer, la Coupe du Monde des clubs, est finalement financé par cette Coupe du Monde des hommes. Tout ce qui vient derrière est vendu comme un sous-produit de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, avec la nouvelle
monde féminine.
Oui, aujourd'hui avec la nouvelle FIFA et également sous l'impulsion du président Jani, nous essayons de vendre la Coupe du Monde féminine comme un produit à part. Il faut revoir tous les contrats.
Parce que pas comme un sous-produit.
Voilà, non pas comme un sous-produit, mais comme un produit à part entière et qui va générer des revenus qui vont être réinvestis dans le football, y compris une possibilité d'augmenter les primes.
Nous avons plusieurs pays. Mais c'est vous qui versez les primes, la FIFA. C'est quand même vous qui les donnez, ces primes aux fédérations à l'issue de la Coupe du Monde.
Et nous allons déjà donner un bon exemple l'année prochaine. En France, vous verrez qu'il y aura déjà une différence dans le traitement des primes des femmes.
Mais vous pouvez utiliser l'argent de la Coupe du Monde
Nous avons plusieurs rôles, vous savez, Madame Jolie. Nous avons le rôle du développement. Et si nous voulons que cette Coupe du Monde féminine puisse également engranger les mêmes revenus que la Coupe du Monde des hommes, il faudrait commencer à développer le football déjà de base.
Christophe.
Fatma Samoura, il y a des pays, notamment je pense à l'Iran, où les femmes ne peuvent pas assister à des matchs dans les mêmes stades que les hommes, en tant que public. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur laquelle la FIFA peut intervenir? Est-ce que la FIFA discute avec les autorités iraniennes ou à la rigueur les condamne? Comment il faut faire avec ça pour que la cause des femmes spectatrices progresse, puisque le foot féminin existe en Iran, mais il est réservé à un public de femmes et le foot masculin réservé à un public d'hommes.
Et alors, pour compléter la question de Christophe, je voudrais que l'on voit ces images hein, de ces femmes qui se sont grimées en hommes pour pouvoir assister à des compétitions et qui ont d'ailleurs se sont photographiées, elles ont mis ça sur Internet et elles ont aussi interpellé le
président. Et là, je dis encore une fois, c'est une discrimination qui ne doit pas avoir lieu. Les stades, ce sont des lieux publics qui doivent recevoir des hommes, des enfants et des femmes. Et effectivement, la FIFA,
c'est dans
la voix
d'ailleurs, hein,
de son président, a ouvertement abordé la question de l'exclusion des femmes dans les stades. Le gouvernement et les autorités nous ont promis de faire des efforts. Et l'administration de la FIFA est un contact direct avec le ministère du sport, mais aussi avec les autorités iraniennes pour pouvoir assurer que ces femmes aient le droit de rentrer au stade. C'est une priorité pour nous. Moi, je l'utilise dans mon tweet et à chaque fois qu'il y a eu une petite ouverture quelque part, comme en Arabie Saoudite, maintenant, je l'utilise pour pouvoir également faire
pays,
la promotion.
C'est le seul pays
et ce n'est pas
aujourd'hui,
normal.
L'Iran sépare les hommes et les femmes dans les stades.
Et ce n'est pas normal.
Et
mmh.
le président...
Il y en avait d'autres, mais ils ont plus ou moins maintenant décidé de s'ouvrir à la diversité. Et je crois qu'avec le pressing que la FIFA est en train de faire,
mais Madame,
et
ça...
les promesses qu'on a reçues, il y a de bonnes raisons de penser
mais
que ça va changer très bientôt.
Oui, il y a eu des promesses, parce qu'en mars dernier, je crois bien que c'est le président Infantino qui était dans un stade en Iran, qu'il a assisté à un match, et ça a provoqué une réaction assez indignée hein, des femmes qui étaient, elles, cantonnées à l'extérieur. Elles ont même tweeté et envoyé sur des sites où elles se battent depuis 2005 hein, pour avoir accès au stade. Elles ont tweeté leur colère. Est-ce que le président Infantino a regretté d'avoir assisté?
Non, il est très sensible.
Mais est-ce qu'il a regretté d'avoir assisté alors que les femmes étaient dehors, cantonnées derrière les grilles?
On est obligé d'y aller pour dialoguer, encore une fois. Les sanctions, ça ne marche pas. Mais avec le dialogue, j'ai de bons espoirs que les femmes bientôt auront accès. Elles ont promis de manifester, elles sont la bienvenue en Russie. Et je pense que ces images, de les voir en Russie avec des fans, même pas d'hommes qui viennent de chez eux, mais d'ailleurs, va envoyer quand même un message très fort aux gens qui pensent toujours qu'une femme n'a pas le droit d'aller au stade.
Il y a d'autres types de discrimination qui sont quasi institutionnalisées. Par exemple, en Égypte, on n'a pas de coptes dans l'équipe nationale. Les joueurs coptes chrétiens donc, sont la plupart du temps rejetés des clubs ordinaires. Est-ce que vous attelez à ce type de questions pour éviter ce type de discrimination?
À chaque fois qu'il est une question de discrimination ou de non-reconnaissance d'aptitude pour des raisons ethniques, sociales, religieuses sont portées à notre niveau, nous prenons immédiatement fait des courses pour ces gens-là.
Concernant l'Égypte, qu'est-ce que vous faites?
Je ne suis pas le sélectionneur national de l'Égypte. J'espère juste qu'ils sont aussi bons que les autres et qu'ils vont être sélectionnés. Mais si on me saisit, et on me saisit pour plein de choses, mais encore pas pour ça, que des joueurs coptes sont exclus systématiquement des compétitions et de l'équipe nationale, ben vous pouvez compter sur moi que le lendemain, il y aura une lettre de demande d'explication qui sera envoyée par l'administration de la FIFA au président de l'association et également au ministre des Sports.
Donc c'est un problème dont vous n'avez pas connaissance?
Pour l'instant, je n'ai jamais été saisi sur un problème d'exclusion de coptes, pour l'instant.
Il nous reste peu de temps avant de poser une dernière question sur Zidane, peut-être sur sa question religieuse. En 2014, la FIFA a autorisé le port du voile hein, dans le football pour les joueuses à la demande de plusieurs pays musulmans. En France, la Fédération française de football a regretté cette décision. Elle interdit à ses licenciés le port du voile. Que pensez-vous de la position de la Fédération française?
Écoute, je ne peux pas commenter une position qui peut-être dépend des textes, de la manière dont la France voit la pratique du football.
Mais qu'est-ce que
moi, je pense que quel que soit le port qu'on a sur un stade, du moment qu'on est là pour avoir une bonne santé, pour pouvoir représenter son pays, pour pouvoir donner de la joie, on doit pouvoir autoriser ces gens à jouer. C'est tout.
Et les signes religieux des joueurs qui se signent en rentrant sur le terrain, d'autres qui ont d'autres.
Il y a d'autres qui ont d'autres croyances, il y en a qui ont des talismans, qui ont des grilles.
Oui, la FIFA, elle prône la neutralité. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, au nom de la neutralité, je ne parle même pas de laïcité, mais de neutralité, interdire l'expression de signes religieux dans les stades?
Mais je pense que dans ce cas, vous n'aurez pas beaucoup de gens qui vont jouer au football. Les gens, ils vont avec la foi. Football est une religion. Vous ne pouvez pas leur dire, vous ne vous signez pas ou vous ne priez pas votre Dieu si vous marquez un but. Pour eux, ils ont marqué parce qu'il y a quelqu'un derrière. Il y a des gens que je connais qui n'ont pas de religion, mais qui ont leur petite patte de lapin, ou qui ont leur petit talisman et qui y croient. Donc, si ça leur permet d'être au meilleur de leur forme et de marquer des buts et de nous faire plaisir, moi je dis, vous pouvez vous signer comme vous voulez. Ça ne me dérange pas du tout.
Alors, pour terminer cet entretien, madame, on aimerait vous entendre sur Zidane. Il vient d'annoncer son retrait comme entraîneur d'Espagne. Est-ce que la FIFA aimerait que Zidane rejoigne
En tout cas, moi, c'était quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bienvenue à la FIFA. Mais je ne sais pas, à lui de dire s'il veut intégrer.
Qu'est-ce qu'il pourrait
avoir ? On a de très bonnes légendes. On a Van Basten qui est le directeur technique. J'ai également comme un adjoint Zvonimir Boban, qui est un ancien joueur d'AC Milan.
Mais lui, qu'est-ce qu'il peut apporter?
Ben, on a quand même un département qui s'occupe de tout ce qui est coaching. On a le nouveau système d'assistance vidéo qui va avoir besoin de personnes comme lui en tant qu'ancien joueur et en tant que, disons, entraîneur du club le plus populaire maintenant en Europe, pour nous dire ce qu'il en pense. Nous avons besoin d'idées.
Ouais, mais qu'est-ce qu'il peut
venir à temps plein, au moins qu'il puisse nous conseiller. Je pense que ce serait une bonne chose.
Est-ce que vous confirmez les rumeurs selon lesquelles il serait approché par le Qatar?
Mais ce sont des rumeurs. Pour l'instant...
Mais qu'est-ce que vous avez comme information, vous?
Les mêmes que les vôtres. Mais je crois qu'il faut quand même lui donner la possibilité de se prononcer sur ce qu'il envisage de faire dans l'avenir. En tout cas, je lui souhaite ce qu'il y a de meilleur. C'est quelqu'un que j'aime personnellement et à qui je souhaite beaucoup de chance. Il a tout fait au niveau du Real et je pense qu'il a encore des secrets qu'on peut découvrir avec
lui. Quelles sont les qualités que vous appréciez particulièrement chez lui?
Sa discrétion, surtout.
Sa discrétion?
Ouais. C'est quelqu'un de très discret qui n'en fait pas trop.
Ça manque dans le football
Oui, c'est un monde où ça parle beaucoup.
Il nous reste une petite minute, Fatma Zamora, pour conclure cet entretien. J'ai envie de vous demander, vous êtes arrivée en tant que femme à la tête de cette institution. Certes, pour des raisons personnelles, vous connaissiez un peu le foot, mais ce n'était pas forcément quelque chose que vous maîtrisiez bien. Vous avez trouvé votre place aujourd'hui à la FIFA?
Et tout à fait. Je suis venue à un moment de crise profonde, et ce qui m'a permis aussi de faire... très vite, beaucoup de changements. Aujourd'hui, la FIFA est une institution beaucoup plus crédible. Nous avons pu restaurer la confiance de nos sponsors. Nous avons pu élargir une Coupe du Monde à 48 à partir de 2026. Nous avons pu instaurer un système d'assistance vidéo qui au début était très critiqué et aujourd'hui quand même est beaucoup plus demandé par les clubs. Et nous avons également un personnel beaucoup plus diversifié avec 48% de femmes au niveau de l'administration.
Bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté cet entretien, d'avoir répondu aux questions de Sophie Malibaud de RFI et de Christophe Ayad du journal Le Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.
À très bientôt. Merci beaucoup. RFI